j'aimerais d'abord introduire ce message par le verset suivant. Placez-vous sur les chemins. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Quand je suis arrivé ici en 1988, qui était là en 1988? Quelques-uns étaient là. OK. On n'était pas ici. On était dans un ancien local commercial, dans un immeuble vieux comme la lune. Et puis on avait hâte de sortir de là. Mais dans la vitrine, il y avait une plaque. Et sur cette plaque-là était écrit ce verset-là. Pour les gens qui passaient, ils pouvaient s'arrêter pour lire. Et puis, les anciens sentiers. Mais ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vous parler de quelques chemins dans la parole de Dieu. Les anciens sentiers. La Bible nous parle de chemin réel, mais aussi de chemin dans un sens figuré. Par exemple, le chemin du juste, le chemin de la vie, le chemin du séjour des morts, le chemin de la paix, la voie large, la voie de Balaam. Il y a des réels chemins aussi, dont on peut tirer certaines leçons. Et dans quel but? Vous trouverez le repos de vos âmes. Et marchez, montre-moi la voie comme on a chanté. Et marchez ce chemin et trouvez le repos de notre âme. Le psaume 143, et c'est le verset suivant. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Ça pourrait être une prière chaque matin. Seigneur, montre-moi quel chemin prendre aujourd'hui. Peut-être que vous vaquez à vos occupations habituelles. Malgré tout, dans votre cœur, dans votre vie, il y a peut-être quelque chose de particulier que Dieu veut vous montrer. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Je vais vous parler aujourd'hui de quatre chemins significatifs. Le premier des chemins, c'est le chemin du désert. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le chemin des Philistins aurait été le plus court, le plus direct. Mais Dieu dit, les Philistins vont les attaquer, ils vont voir la guerre, ils vont retourner en Égypte. Donc, il leur fait faire un détour par le chemin du désert. Qui aime faire le détour ici? Personne. Puis quand on voit un détour, on essaie de voir si ça ne passerait pas à côté. Des fois, ça dit circulation locale. Il faut peut-être passer là pour voir si on me rendre. Les détours. Mais ils sont nécessaires, les détours. Parce que le chemin le plus court n'est pas nécessairement le plus avantageux. Un détour, c'est pour notre avantage, n'est-ce pas? Sinon, le chemin qui est devant nous, ça peut être un chemin chaotique ou bien défait complètement. Le détour est avantageux et nécessaire aussi. Et dans notre marche avec Dieu, parfois, il nous fait faire des détours qui sont nécessaires pour notre bien, notre mieux-être. C'est un chemin inconnu. Et c'est pour ça que Dieu avait placé une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit, afin de les éclairer et de les guider. Merci Seigneur parce qu'il veut nous guider aussi sur notre chemin. Il veut nous conduire. Il nous donne sa parole pour nous guider. Une lumière sur notre sentier. Un chemin inconnu des hommes, mais connu de Dieu. Un chemin sur lequel devait marcher par la foi. Parce qu'il n'y avait jamais passé là avant. Puis il n'y avait pas de quatre routières. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait rien. Il y avait Dieu. Il y avait Dieu, on a tout. On a tout avec Dieu. Qui les conduisait. Et frères et sœurs, Dieu va nous faire passer par des chemins nouveaux, inconnu et parfois éprouvant. Ça arrive-tu? Si ce n'est pas arrivé, ça va arriver. Mais je crois que si on recherche sa direction avec sérieux, il va nous conduire au bon endroit de la bonne façon. Merci Seigneur. Il ne nous abandonne pas en chemin. Il est avec nous tous les jours, qu'il a dit. Alors, il veut nous conduire. Le Saint-Esprit nous est donné pour quoi? Pour nous diriger aussi, notre compagnon de route. Il est avec nous sur ce chemin-là. La Bible dit quoi? L'Éternel sera toujours ton guide. Toujours ton guide. Pour avoir cette confiance-là. C'est le chemin le plus sûr parce que Dieu est le meilleur des guides. Il n'y a pas de meilleur. Dieu est le meilleur des guides. Il veut nous conduire. Mais là, il y a une petite surprise. Chemin faisant, ils sont arrivés à une mer, la mer des roseaux. Et ça passait pas. Pas de traversier, pas de pont. À la nage, c'était impossible. Ils étaient coincés. Et en plus, voilà qu'ils voient venir Pharaon avec son armée. Là, ça allait pas bien. Puis ils ont commencé à avoir peur. Je vais vous lire ici un verset, deux versets dans l'Exode, chapitre 14. Ce qui est écrit ici. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Il fallait qu'il y ait de la foi, Moïse, pour dire ça. Il y avait une armée qui s'en venait, là. Il était bien réel. « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Ça veut dire quoi? Arrêtez de chialer et de murmurer. Parce qu'il on est mieux retourné en Égypte, on était plus tranquille là-bas. Il y avait peur tout à coup. La panique s'est emparée d'eux. Parfois, sur un chemin éprouvant, la panique peut nous prendre aussi. La peur peut nous prendre. Ils sont tombés dans l'incrédulité. N'ayez pas peur. Frères et sœurs, quand on est coincé, n'ayons pas peur. Dieu a une solution pour notre chemin. Même si c'est écrit cul-de-sac, Dieu a un chemin qui va ouvrir devant nous. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais sachons attendre dans la foi. Parce que si on commence à murmurer, puis à se plaindre, puis alors là, on vient démolir notre foi. Mais ça dit, Seigneur, je te fais confiance, même si je ne vois pas l'issue, je ne sais pas comment ça va arriver, me confie en toi, Seigneur. Et la colonne de nuée se tenait entre eux et le peuple, l'armée d'Égypte. Donc, Dieu les gardait au travers de ça. Et le miracle s'est produit. Ce que personne n'attendait, et que Dieu a ordonné à Moïse, il a étendu son bâton, et les eaux de la mer Rouge se sont ouvertes, sont séparées, et deux murailles d'eau très hautes de chaque côté, et sont passées à pied sec. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Frères et sœurs, Dieu peut ouvrir un chemin dans votre vie qui va vous étonner. Croyez ça? Il peut ouvrir une voie dans votre vie qui va vous surprendre. Dieu est le Dieu des miracles. En fait, le chemin du désert, c'est le chemin par excellence. C'est le chemin où Dieu se manifeste, manifeste sa gloire. Alléluia! Qui veut voir la gloire de Dieu? Amen! Attendez-vous de passer par un détour. Éprouvant parfois. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est d'avancer avec foi, avec persévérance, et Dieu va être là avec nous. Béni soit le Seigneur. J'ai un deuxième chemin ce matin. Le chemin de Jérusalem à Jéricho. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui es-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » On va s'arrêter là pour l'instant. Un professeur de la loi, qui veut savoir, en fait, il mettait Jésus à l'épreuve, mais Jésus l'a mis à l'épreuve lui-même. Comment hériter la vie éternelle? Aime Dieu, aime ton prochain. Et pourquoi est-ce qu'il dit « Qui est mon prochain? » Parce que pour les Juifs, à part les Juifs, il n'y avait pas de prochain. Un Samaritain, ce n'était pas un prochain. Les païens, on les haïssait. Alors le seul qui pouvait être digne de son amour, c'était un Juif. Et Jésus raconte une histoire dans laquelle il y a un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Et on dit, la Bible dit « descend » parce que il y avait une grande dénivellation entre Jérusalem et Jéricho. C'était à peu près 30 km de route, mais ça descendait pas mal à pic. Un homme descendait sur ce chemin-là. Et il s'est fait attaquer, à moitié mort sur le bord du chemin, et trois hommes sont passés. Un sacrificateur, un lévite et un samaritain. Il y a trois applications que j'aimerais faire à ce chemin-là. Le chemin qui descendait. On dit que la route qui descendait de Jérusalem à Jéricho était sinueuse. On l'appelait la route sanglante. Le chemin le plus dangereux en Palestine. Et des voleurs se tenant en embuscade, attaquaient des passants et puis prenaient leurs biens. Un chemin dangereux. Ça me fait penser, un chemin qui descend, c'est notre nature humaine corrompue. Elle est sur un chemin qui descend. Notre nature humaine qui a tendance à aller vers ce qui est plus facile. Va se laisser aller à ses désirs, ses convoitises, ses pensées. C'est la nature humaine, n'est-ce pas? Et si on la laisse aller, ça descend, pour descendre pour être profond. C'est plus facile de se laisser aller que de combattre. De relever le défi. De faire face à ce qui est mal. Plus facile. Dans notre monde aujourd'hui, frères et sœurs, je vous apprends rien en vous disant qu'il y a tant de gens qui sont captifs de dépendance comme l'alcool, la cigarette, le cannabis, comme si on avait besoin que ce soit légalisé. Et puis, sans parler de la pornographie, qui fait tellement de ravages, des choses qui détruisent les hommes, les femmes, des choses qui les tiennent captifs, des choses qui les font descendre et qui les rendent comme à moitié morts en réalité. C'est ça que ça fait. Intérieurement, peut-être qu'à l'apparence, ils ont la bonne santé, mais intérieurement, ça détruit. Des gens sont aux prises avec ça. Des plaisirs trompeurs, mais qui finalement sont amers en bout de ligne. Le chemin qui descend. Le diable, c'est un voleur. Il cherche pour prendre les âmes et les détruire. Puis il prend toutes sortes de moyens pour amener les gens à s'entretuer, à s'entre-déchirer. Ça, c'est le chemin qui descend. Mais Dieu merci. Le Seigneur Jésus va se trouver quelque part sur ce chemin-là pour nous secourir aussi. Et nous libérer de tous les liens qui peuvent nous tenir captifs. Toutes ces choses qui cherchent à nous détruire, à nous éloigner de Dieu. Le Seigneur est là pour nous aussi. Et l'homme sur le chemin, qui descendait, un inconnu, a été victime de la violence d'individus mal intentionnés. Il y a peut-être des gens qui étaient victimes ici, sûrement, de violence ou de mauvais traitements ou autre chose semblable. Le péché des autres fait beaucoup de victimes, vous savez. Le péché des autres fait beaucoup de victimes. On n'a qu'à écouter les nouvelles pour le savoir. Et ça tient les gens dans la souffrance. C'est un chemin où les gens souffrent. Et parfois, on souffre intérieurement parce qu'on est lié par quelque chose. On dit, Seigneur, secours-moi. Alors, sur ce chemin-là est passé deux hommes. Deux hommes qui affirmaient connaître Dieu. C'est la deuxième application. Deux hommes religieux. Et lorsqu'ils ont vu l'homme sur le bord du chemin, qui semblait plus mort que vivant, ils sont éloignés puis ont passé tout droit. Ça, c'est le chemin de l'indifférence et de l'égoïsme. Chercher ses intérêts personnels plutôt que le bien du prochain. Et en plus, c'est que pour eux, toucher un mort, supposons que l'homme était mort, ça les aurait rendus impurs. Et ils ne voulaient pas se rendre impurs. Donc, touchons pas un mort. Mais c'est aussi le chemin de la compassion. Béni soit Dieu. Un Samaritain descendait par là. Il a vu l'homme à moitié mort sur le bord du chemin. Et il s'est arrêté. Je pense qu'il vient de la diapositive, si je ne me trompe pas. C'est ça, une illustration que j'ai trouvée. On voit les deux autres hommes qui s'en vont en arrière. Lui s'est arrêté. Il a commencé à soigner les blessures de l'homme. Il l'a mis sur sa monture. Il s'est retardé. Il prenait un risque d'être attaqué lui-même. Et puis il a emmené l'homme jusqu'à un endroit sécuritaire pour qu'on prenne soin de lui. Il a même payé pour qu'il soit hébergé là. Le chemin de la compassion, un pur étranger. Le mot compassion, c'est composé de deux mots qui veut dire souffrir avec. Souffrir avec quelqu'un. Ressentir sa souffrance. Ce n'est pas toujours naturel, ça, vous savez. Mais Dieu veut mettre ça dans nos cœurs, frères et sœurs. Nous amener à éprouver cette souffrance de l'autre. Le Saint-Esprit peut nous mettre cette compassion dans le cœur. Et ça nous pousse à agir, à faire quelque chose envers l'autre. J'ai déjà dit que la compassion, c'était la marque de commerce du ministère de Jésus. Ému de compassion, il a vu la foule. Ému de compassion, il a touché le lépreux. Il a guéri l'aveugle. Ému de compassion. Pour nous, ça peut être de s'approcher de l'autre. L'autre, c'est qui? Mon voisin? Mon collègue de travail? Quelqu'un avec qui j'étudie? Peut-être quelqu'un que je rencontre dans un parc en été? On va aller faire l'évangélisation sur la rue. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Est-ce que je peux agir? Est-ce que je peux l'écouter? J'ai lu une petite pensée un jour que je trouvais intéressante. Quelqu'un disait, c'est pas une corvée d'aimer le monde entier. Le vrai problème, c'est d'aimer le voisin d'à côté. Parce qu'il me tape ses nerfs, le voisin d'à côté. Ou parce que j'aime pas son chien, ou je sais pas quoi d'autre. Des fois, c'est ça. Aimer le voisin d'à côté. Aller vers l'autre. Le Saint-Esprit veut mettre dans nos cœurs l'amour de Dieu. Mon cœur est trop étroit, mais le Saint-Esprit, il y a un amour tellement grand qu'il peut m'amener à déverser l'amour de Dieu envers l'autre. Mais Jésus dit quoi? On va revenir à la diapositive précédente. À la fin de l'histoire, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui t'est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, non, va agir de la même manière. Alors, il y a eu sa leçon. Va agir de la même manière. Qui est mon prochain? N'importe qui. Va et toi, fais de même. Ça coûte quelque chose, aller vers l'autre. Ça demande de notre temps. Ça peut parfois nous amener à risquer un peu quelque chose pour l'autre. Mais dans une situation plus compliquée, parce que les gens vivent des situations compliquées, on essaie de les aider, de sortir de ça. Ça demande ça. Mais c'est un défi qui nous est lancé, parce que je crois, frères et sœurs, qu'il y a un bon samaritain qui sommeille en chacun d'entre nous. Amen. Il y a un bon samaritain qui sommeille. Dites-le à la personne à côté de vous, il y a un bon samaritain qui sommeille en toi. Réveillez-le. Vous êtes convaincu? Il y a un bon samaritain. J'ai un troisième chemin. Le chemin d'Emmaüs. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? » L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Ça, c'est le chemin de la déception. C'est le chemin de la désillusion, la tristesse, la déprime même. Il avait espéré beaucoup, on espérait que ce serait lui, mais ça fait trois jours qu'il est mort, c'est arrêté là. Ils avaient quitté Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Qu'est-ce qu'il allait faire à Emmaüs? Est-ce qu'il demeurait là? Pas sûr. Mais ça peut donner une illustration. Ils avaient quitté la communion fraternelle des frères et sœurs qui étaient à Jérusalem et ils s'éloignaient de Jérusalem. J'appelle ça une marche d'éloignement. Parfois, quand on est déçu, les choses n'arrivent pas comme on aimerait que ce soit arrivé. On peut décider de prendre une certaine distance. Est-ce que ces deux hommes-là avaient décidé de passer à autre chose? De mettre les choses en suspens, leur foi en suspens? Qu'est-ce qu'on fait quand on est déçu qu'une prière n'est pas exaucée? Comment est-ce qu'on réagit? Ou quand quelqu'un n'a pas respecté sa parole? Ou encore, quand une aide n'est pas venue au moment voulu, on avait si besoin? Ou quand une promesse que Dieu fait dans sa parole ne s'est pas encore accomplie? Est-ce qu'on fait une marche d'éloignement? Est-ce que dans notre cœur, on commence à se refermer un peu? Ah, ben, si c'est ça. Ah, c'est ça l'Église. Ah, ben, si le Seigneur n'a pas répondu, moi, là. Des fois, tranquillement, petit à petit, ah, la Bible, ça me dit bien des affaires, mais je ne sais pas si je peux tout croire ça, puis on va se côté un peu. Petit à petit, on s'éloigne, on prend distance. Je vais vous dire ceci. Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. C'est nous qui parfois ne comprenons pas toujours ses plans. Comment les choses vont arriver? Quand elles vont arriver? et elles vont arriver différemment peut-être que ce qu'on pense. Mais Dieu ne déçoit jamais. Il dit quoi? Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix au-dessus de nos voix. C'est à nous de nous ajuster avec son calendrier, avec son chemin à lui. Et pas à nous de dire, « Ah, oh, ben regarde, Seigneur, tu n'as pas fait tout ce que j'attendais, là. » Non, non, il n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes à son service. Alors, il nous appelle sur ce chemin-là, non pas à nous éloigner. Et là, chose intéressante, un individu s'approche d'eux. Commence à parler avec eux. De quoi est-ce qu'ils vous parlent en chemin? Nous, on sait qui c'est. Eux, ils ne savaient pas à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne savaient pas? Leurs yeux étaient voilés par la tristesse, par la déception, puis n'ont pas reconnu le maître, Jésus. Frères et sœurs, sur le chemin de la déception, le chemin de la tristesse, j'aimerais vous dire ceci, Dieu n'est jamais bien loin. Il n'est jamais bien loin pour s'approcher, mais parfois on ne le reconnaît pas tout de suite. On n'a pas conscience qu'il est là. On ne sent pas sa présence. Il fit route avec eux. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Notre état d'âme, parfois, nous voile la présence de Dieu. Nous voile ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il prépare dans notre vie. Et il a emboîté le pas avec eux, en marchant, en les questionnant, mais il n'a pas seulement questionné. Il leur a parlé aussi. Et voici ce qu'il est écrit. Je vais vous lire ici, chapitre 24 de Luc, et dans les quelques versets. Luc, c'est mieux que Jean. Le verset 25, chapitre 24, il est écrit ceci. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et ce qu'on sait par la suite, c'est que à mesure que le Seigneur leur parlait, leur expliquait les Écritures, ils ont dit, mais un peu plus tard, ils ont dit, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? » Frères et sœurs, lire la parole de Dieu, c'est une source de vie pour nous. Ça rallume le feu en nous. Ça rallume l'espoir. Au lieu de se déprimer, de se laisser aller à la tristesse, à la déception, au contraire, « Seigneur, je crois en toi, Seigneur, tu es en train de me fortifier. » Privez-vous pas de lire la Bible. Ça nous soutient, ça nous fortifie, ça. Ça nous éclaire. Et ça a été une marche d'instruction indispensable. Et Dieu a des marches d'instruction indispensables pour nous. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Entretenez-vous de ces choses-là. Elles vont vous aider dans votre marche avec Dieu. Et même si les choses sont parfois obscures ou vraiment difficiles, Dieu est là encore et il y a une parole pour vous au fur et à mesure que vous marcherez. Et le miracle, c'est que la déception, la tristesse, s'est changée en joie débordante. Merci Seigneur. Lorsque Jésus a rompu le pain, il a disparu. Ils l'ont reconnu. C'était lui. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Une nouvelle flamme s'est allumée. Jésus leur avait dit, avant d'aller à la croix, « Votre tristesse se changera en joie. » Eh bien, c'est pareil pour nous. Il y a des moments de tristesse dans la vie, mais il y a des moments aussi de joie aussi que Dieu va nous donner. Merci Seigneur pour cela. Il compense largement pour la tristesse. Et ce soir-là, en fait, c'est le soir, le jour de soirée, devait être couché parce qu'ils sont rentrés au village pour prendre le repas. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait demi-tour, ils ont fait parcourir 12 kilomètres, ils sont partis au pas de course, je pense, pour retourner à Jérusalem, à noirceur. Peut-être une lampe à leur pied, je ne sais pas. 24 kilomètres, ça va, c'est de la marche, hein. Mais il y avait tellement vraiment de joie d'avoir reconnu le Seigneur, l'espérance finalement était vraie. Toute leur tristesse, leur déception s'était anéantie. Maintenant, Jésus est vivant, alléluia! Ils sont dépêchés de reconnaître les autres pour lui dire, voyez, Jésus est vivant, on l'a reconnu. Frères et sœurs, il faut se rappeler que Dieu est vivant. Quel que soit le chemin de la tristesse, quelles que soient les déceptions de la vie, Dieu est là pour nous épauler, nous soutenir, nous fortifier par sa parole. Alléluia! Il va nous conduire. D'ailleurs, Ésaïe chapitre 40, je ne sais pas si je l'ai mis à l'écran, je ne pense pas. Non, je vais vous le lire, je ne l'ai pas mis à l'écran. Mais je vais vous le lire quand même parce que je trouve que c'est un bon verset qui s'applique pour eux et pour nous aussi. Ésaïe chapitre 40, verset 31. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent point, ils marchent, ne se fatiguent point. Un aigle, ça plane. Vous avez déjà vu ça, des oiseaux rapaces? J'en vois autour de chez nous, moi. Ils planent. Tout doucement, les courants d'air les portent. Alors, ceux qui se confient en Dieu sont portés. Alléluia! Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ne se fatiguent pas. Ils marchent, ne se lassent pas. C'est Dieu qui fait ça. Il renouvelle nos forces. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu renouvelle nos forces, frères et sœurs. Je vais vous partager une petite chose ici. Les dernières années où j'étais à Rimouski, il m'est arrivé souvent d'être arrivé à l'église le dimanche matin fatigué parce que je n'avais pas des bonnes nuits. Moi, je dors un petit sommeil léger. Je ne dormais pas toujours bien. J'arrive à l'église fatigué. Mais quand tu es pasteur, tu ne faut pas se fatiguer dans l'église. Le dimanche matin, c'était mieux d'être là. J'étais là. Et quand je commençais à prêcher, au fur et à mesure que j'avançais dans la prédication, au fur et à mesure que l'énergie revenait, à la fin de la réunion, il n'y a plus de fatigue du tout. Merci Seigneur. C'est arrivé souvent, ça. Merci Seigneur. Alors, j'aime aussi en prêcher parce que c'est bon. Ça me renouvelle. Mais Dieu est avec nous. Dans les moments où est-ce que des fois on est accablé, frère et sœur, il va y avoir un regain de vigueur quelque part qui va arriver. Si ce n'est pas physiquement, spirituellement en tout cas, ça va arriver. Et il l'a fait. J'ai un quatrième chemin pour vous. Le chemin de Gaza. Ah, on connaît bien la bande de Gaza, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il y a deux applications à ce chemin-là. D'abord, le chemin du témoignage personnel. Le chemin de l'évangélisation, d'aller vers quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessaire d'attendre qu'un ange nous apparaisse pour nous dire d'aller vers quelqu'un ou un certain endroit. Mais pourquoi servir pour Philippe? Je vais vous dire ceci. Philippe était à Samarie en pleine période de l'éveil. Les gens se convertissaient, il y avait des miracles, des délivrances, la foule était au rendez-vous. Ce n'est pas le temps de partir. C'est un chemin désert en plus. Mais Philippe a obéi. Ce n'est pas nécessaire qu'un ange nous dise d'aller. La parole de Dieu nous dit d'aller. Et on peut aller, et on doit aller vers les gens, là, les inconnus ou les gens qu'on connaît, peu importe. Et il n'est pas allé vers n'importe qui. L'Esprit lui dit, alors qu'il était sur le chemin, il a vu toute une caravane, parce qu'un trésorier, c'était le trésorier de la reine de Candace, comme le ministre des Finances du pays. Écoutez, ce n'est pas n'importe qui, là. Il y avait toute une caravane avec lui, des soldats certainement, des serviteurs et tout ça. Et là, l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi de ce char-là. » Ça devait être un peu intimidant pour Philippe, qui était un homme bien ordinaire. Parfois, frères et sœurs, d'aller vers les gens, ça peut nous intimider. Ça vous arrive-tu? Oui. Je vais vous dire ceci. Le Saint-Esprit n'est pas timide. Moi, je suis peut-être timide, mais pas le Saint-Esprit. Et il nous aide. Il va nous guider, puis il va nous donner les paroles qu'il faut au moment voulu. Il faut juste qu'on ose relever le défi. Ce n'est pas un esprit de timidité, dit l'apôtre Paul, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, on peut relever ce défi-là, d'aller vers les gens. Mais c'est aussi le chemin de celui qui cherche. Philippe arrivait au bon moment, imaginez. Le haut fonctionnaire, le trésorier, lisait les Écritures. Il ne peut pas arriver mieux que ça. Puis, il lisait Isaïe 53, à propos de Jésus, imaginez. Ça, c'est le timing du Seigneur. Hein? Des fois, Dieu a un timing comme ça. Il nous donne des rendez-vous avec des gens. Là, c'est vraiment Dieu qui a orchestré ça. C'est pas un hasard. En fait, le hasard, c'est Dieu qui est derrière ça. Alors, c'est toujours Dieu pareil. Mais Dieu a permis en sorte donc, que Philippe arrive, l'homme lisait ça, et Philippe, non, parce qu'à l'époque, on lisait à haute voix. C'est pour ça qu'il l'a entendu. Il lisait à haute voix. Comprends-tu ce que tu lis? Alors, Philippe monte, il lui explique les Écritures. Frères et sœurs, si vous avez au moins une bonne connaissance de l'Évangile, du plan du salut, vous pouvez faire comme Philippe. Expliquer l'Évangile à quelqu'un. simplement, avec quelques versets. C'est ce qu'on a fait au kiosque des fermiers chrétiens. Et quelle belle opportunité on a d'annoncer l'Évangile, d'expliquer l'Évangile comme ça aux gens qui se présentent à nous. C'est aussi simple que ça. Et le chemin de celui qui cherche est le chemin aussi de celui qui trouve. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Et cet homme-là a trouvé le Seigneur. La preuve, c'est que par la suite, alors Philippe lui a parlé du baptême d'eau, il y avait probablement un étang, un lac qui était pas loin, fait arrêter le char, descend, baptise l'homme. C'est le chemin de celui qui trouve. Alors, lorsqu'on cherche Dieu, on le trouve. Moi, je l'ai tellement cherché, quand je l'ai trouvé, je ne l'ai pas laissé partir, je vous le dis. Tellement content de le connaître. Merci Seigneur, ce privilège de le connaître. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui annoncent la paix. Comment on peut faire la paix avec Dieu? Nos pieds, frères et sœurs. Au mois d'août, on va aller au parc ou sur la rue, on va annoncer l'Évangile, parler avec des gens, peut-être même prier avec eux, qui sait. Dieu te donne des occasions extraordinaires. Alors, c'est à nous d'aller, parce que les gens n'entrent pas en foule le dimanche matin ici, on enseigne, toutes les invitations sont là, mais nous allons vers eux. Nous osons aller vers eux. On a souvent des surprises en faisant cela. Comment Dieu nous étonne et met des gens sur notre route. Des fois, on veut juste semer. Et par-dessus tout, je voulais vous parler d'un cinquième chemin qui est le chemin le plus important. Et c'est celui-ci. Je suis le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Ça, c'est le plus important. Jésus n'est pas un chemin parmi d'autres. Le chemin. J'ai discuté, j'étais à Victoriaville, au kiosque des familles chrétiens, puis un homme qui est dans un kiosque en face, qui vient vers nous, et puis il vient du Maroc. Il commence à discuter avec nous, mais lui, il est musulman. Alors, on a une discussion intéressante, mais j'ai vu que ça venait de nulle part, parce qu'il tenait son point de vue, je comprends ça. Mais pour lui, Jésus n'est pas le chemin. C'est un prophète, c'est tout. Jésus est le chemin. Le Fils de Dieu fait homme. Celui seul qui peut nous sauver. Alors, voyez-vous, c'est ce chemin-là que Dieu veut qu'on emprunte. Et si ce n'est pas encore pris ce chemin-là, je vous invite grandement à le faire. N'hésitez pas. Jésus est le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Il nous invite à nous approcher de Dieu au travers de lui. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Le seul, l'unique et le vrai médiateur. Celui qui nous donne la vie éternelle, qui nous invite vraiment aujourd'hui à nous approcher de lui. Donc, je reviens à ce verset du début. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Tout à l'heure, il y avait un seul individu sur le chemin, maintenant il y en a deux. Sur ce chemin-là, on rencontre des gens. Des gens à qui on peut partager l'Évangile. Des gens à qui on peut témoigner. Il y a plusieurs années de ça, je me suis rappelé de ça la semaine passée. Il y a plusieurs années de ça, un lundi après-midi, quand j'étais pasteur ici, j'étais allé prendre une marche dans une forêt juste sur le côté de la côte de la baie. Il faisait beau. Et puis je connaissais l'endroit. Et il y a un homme qui arrive par un autre chemin que je ne connaissais pas. Et puis, on va marcher ensemble, ça va dans la même direction. Alors, on marche ensemble. Et pendant au moins une demi-heure, sans exagérer, au moins une demi-heure, sinon plus, j'ai pu lui parler de l'Évangile de A à Z. Il était vraiment intéressé. Il écoutait attentivement. J'étais vraiment content. C'est une marche. Donc, je viens prendre une marche, je rencontre quelqu'un, je parle du Seigneur. Et je l'ai bien invité à venir, mais je ne l'ai pas vu encore. Mais j'ai semé, par exemple. J'ai semé en lui. Et je crois que c'est un rendez-vous divin parce qu'il ne savait pas que je serais là, puis moi je ne savais pas qu'il serait là non plus. Et ça n'a pas été long qu'on a tourné. Quand quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, c'est pas long que je peux parler de l'Évangile. Alors, le sujet arrive sur l'Évangile. On peut rencontrer des gens comme ça, et puis qui sait ce qui va arriver. Ça me rappelle une fois, il y a une dame à Rimouski, une dame âgée. Elle était dans la salle d'attente à l'urgence de l'hôpital, puis elle avait un Évangile de Jean. Alors, elle l'offre au monsieur qui était à côté d'elle. Le monsieur, il prend ça, il garde ça. Et il commence à lire à voix haute, que tout le monde comprenne. Il était vraiment surpris. Il lisait à voix haute. Elle ne s'attendait pas à ça. Tout le monde comprenait ce qu'il disait. On est surpris des fois de ce que Dieu fait avec les gens. Mais frères et sœurs, c'est le chemin. Et si on sait vraiment reconnaître les plans de Dieu dans nos vies, des fois, là, il va nous étonner comment Dieu conduit les gens sur notre route, comment on peut être des témoins. Et parfois, on fait juste semer, d'autres fois, on va arroser. Mais quelque chose va arriver un jour. On continue de prier pour ces gens-là. Mais Dieu est avec nous dans ça. Alors j'invite les musiciens à venir maintenant. Je vais vous poser la question ce matin. sur quel chemin marches-tu? Est-ce que tu es sur le chemin du désert, le chemin le plus long, et que tu es rendu à un cul-de-sac, où il faut qu'un miracle se produise, ou du moins tu attends un miracle, tu espères un miracle. Mais Dieu est au rendez-vous sur ce chemin-là, frères et sœurs. Ou bien es-tu sur le chemin qui descend, la route qui descend de Jérusalem à Jéricho, la route qui descend, le chemin qui te garde lié par une habitude qui te détruit, par un lien, quelque chose dans ton cœur qui te fait du tort. Ou bien es-tu sur le chemin de la tristesse et de la déception, comme les disciples d'Emmaüs? Je vais vous dire ceci. Quel que soit le chemin sur lequel vous marchez, Dieu va être là. Dieu, il vous attend, il va vous rencontrer, il va vous secourir. On va chanter ce chant-là qu'on a chanté ce matin. Montre-moi la voie où marcher. Et si dans votre cœur vous constatez, vous prenez conscience que vous êtes dans un de ces chemins-là, j'aimerais qu'on prie ensemble. Je vais vous inviter à vous approcher simplement. On va prier ensemble. Et demandez au Seigneur vraiment qu'il intervienne dans votre cœur, qu'il se manifeste envers vous. On va commencer d'abord par vous lever. Et puis, on va en venir ensuite. Mais si dans votre cœur, vous prenez conscience que votre chemin est difficile, que votre chemin est compliqué, ou que votre chemin est un chemin d'éloignement, je vais vous inviter ce matin. Venez ici devant. On va prier et croire Dieu pour une délivrance, pour un miracle, pour une parole qui va vous relever, vous fortifier, pour la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur est parmi nous, frères et sœurs. Il veut intervenir dans nos cœurs, dans nos vies. Il veut opérer un miracle en nous. Alors pendant qu'on chante, venez si vous le voulez.